Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour écouter notre invité, le professeur Daniel Liberman. Donc, la semaine dernière, il vous a fait une introduction de la médecine évolutionnaire ou évolutionniste. Vous avez compris qu'il y a un débat sur le terme. Et qui s'intéresse notamment aux questions de santé, vraiment dans une perspective évolutionniste, c'est-à-dire comment, dans le fond, des adaptations qui étaient des adaptations centrales pour les hominines peuvent expliquer un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans les sociétés modernes, qui peuvent être des questions de santé, en grande partie liées, en fait, à des changement de mode de vie assez radical dans les sociétés industrielles. Alors, on a parlé du cancer du sein, notamment, la dernière fois, mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alimentation. Alors, évidemment, l'alimentation, c'est très important, hein, pas seulement en France, c'est important partout. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle, il y a des domaines où elle joue de façon extrêmement forte, en particulier tout ce qui tourne autour de la reproduction, tout ce qui tourne autour de la maladie, c'est soumis à des fortes pressions de sélection. Et alors, l'alimentation, c'est un domaine justement qui lui aussi est soumis à une très très forte pression de sélection. Donc, disons que c'est une zone d'adaptation qui va être très sensible à des changements de mode de vie, à des changements d'environnement. Et alors, en plus de ça, chez les hominines, c'est quelque chose qui revêt un caractère assez particulier aussi. Pourquoi ? Peut-être plus que dans d'autres groupes de mammifères, parce que nous sommes des organismes extrêmement gourmands en énergie. Nous avons un métabolisme basal qui est élevé par rapport à celui des autres grands primates, un niveau d'activité aussi, enfin une consommation d'énergie liée à l'activité qui, en tout cas jadis, était assez élevée. Et tout ça est aussi en partie lié à la consommation d'énergie par notre cerveau. Donc en gros, voilà, on a évolué chez les hominines, enfin les hominines ont évolué vers des régimes alimentaires riches en calories. Alors ça, on parle toujours de la viande, de la graisse, on parle aussi beaucoup des hydrates de carbone, hein, dont on soupçonne que peut-être c'est peut-être un peu plus ancien que ce que l'on croit. Voilà. Et donc tout ça, c'est lié, j'allais dire, à des adaptations fondamentales des hominines dans un passé plus ou moins lointain. Et alors, évidemment, on en paye un peu les conséquences aujourd'hui. Et on va, je crois, aborder ces sujets-là aujourd'hui. Puis surtout, peut-être dans la dernière de ces séries de conférences. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole donc à Daniel Liberman.
Merci, Jean-Jacques. OK. Merci à vous. Je suis ravi de donner cette deuxième conférence sur la médecine évolutionnaire ou évolutionniste. J'aimerais comprendre exactement quoi dire, mais je pense que les deux marchent. Ou comme j'aime plaisanter, comment utiliser l'évolution pour nous aider à mourir en bonne santé. Et aujourd'hui, je vais parler de l'alimentation. C'est quelque chose, c'est un sujet dangereux, je sais, en France. Mais je vais essayer de demander les questions. Pourquoi avons-nous évolué pour manger presque tout? Et pourquoi certains régimes sont-ils mieux que d'autres? OK, si ça marche. OK. Et avant de commencer, je vous prie encore d'excuser mon français rouillé et novice. C'était 43 ans que j'ai étudié le français en lycée et j'espère que mon français s'est amélioré pendant la semaine dernière, mais j'ai encore du mal. OK, mais je vais essayer. Et j'aimerais commencer par une observation simple. Nous pensons qu'il est tout à fait normal de nous demander quelques fois par jour ce que nous voulons manger. Oui? Et ici à Paris, ma femme et moi, nous trouvons que c'est une question très difficile car il y a tellement de cuisines délicieuses. Mais il faut apprécier que c'est une question très, très moderne à laquelle nous ne sommes pas jamais vraiment adaptés pour répondre. Les chasseurs-cueilleurs qui ne cultivent pas de nourriture et non pas de magasins ne se posent jamais cette question. Chaque matin, ils se réveillent affamés et ils mangent uniquement ce qu'ils chassent ou ce qu'ils cueillent cette jour. Les agriculteurs de subsistance aussi mangent seulement ce qu'ils cultivent. Depuis 15 ans, je travaille et vis chaque été dans les zones rurales du Kenya et Rwanda. Ça, c'est la région Rwanda où nous travaillons maintenant. Et auprès d'agriculteurs qui travaillent sans machine et qui mangent seulement ce qu'ils cultivent, et je peux vous assurer que personne ne demande ce qu'on mange ce soir. Ils le savent déjà. Et ils n'ont pas besoin de menu parce qu'il n'y a pas de menu. Et pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, surtout depuis l'apparition de l'agriculture, le problème de la plupart des gens n'était quoi manger, mais s'il y avait quelque chose à manger. Nous n'avons aucune idée du nombre de centaines de millions d'humains qui sont morts de faim dans l'histoire humaine. Même aujourd'hui, alors que des milliards de personnes n'ont toujours pas assez à manger, des milliards d'autres sont confrontés au problème nouveau d'en avoir trop. Considérons un grand supermarché typique. J'étais impressionné par le Monoprix en face de l'église de Saint-Germain. C'est très, très grand, oui. Et ces magasins proposent aujourd'hui à peu près 40 000 types différents de produits alimentaires. 40 000, oui. Et la plupart de ces aliments ont été transformés dans les usines. Et ici à Paris, nous sommes entourés des restaurants qui proposent des cuisines du monde entier, d'un point de vue évolutionniste ou évolutionnaire. Notre situation alimentaire est vraiment bizarre. Mais avec toute cette abondance et cette diversité, beaucoup d'entre nous ne font pas de bons choix. Maintenant, selon les données très bonnes, la moitié de la France est en surpoids ou obèse. Plus concernant, c'est que 15% des enfants français sont en surpoids, une statistique inquiétante. Parce que c'est un de si gros problèmes, l'obésité sera le thème de ma conférence numéro 4 le 31 octobre. Mais comme vous le savez probablement, les principales causes de mortalité aujourd'hui en France sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est à peu près 50%. Et les trois causes principales de ces maladies sont le fumeur des cigarettes, l'activité inactivité physique et bien sûr l'alimentation. Et cela soulève une question importante. Comment pouvons-nous faire mieux? Et comme j'ai expliqué dans la conférence précédente, la théorie de l'évolution et les données évolutionnaires peuvent nous aider parce que rien en biologie, y compris la santé et le médecin, n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution. Alors, commençons avec l'explication évolutionniste standard et simple pour expliquer pourquoi les humains sont si enclins à grossir. Comme nous avons évolué dans des environnements pauvres en énergie, nous avons évolué pour désirer les aliments riches en sucre et en graisse. Oui, ça rend du sens. Et cette explication est vraie d'une certaine mesure. Les deux aliments préférés des chasseurs-cueilleurs sont le miel et la viande. Je l'ai observé moi-même lorsque j'ai accompagné deux chasseurs Hadza un matin en Tanzanie. Après 2 ou 3 heures, ils n'ont réussi à tuer aucun animal. Alors, ils ont passé le reste de la matinée à visiter 5 ruches différentes. À chaque ruche, ils ont allumé un feu enfumer les abeilles et manger autant de miel qu'ils peuvent. Je ne savais pas qu'on pouvait manger autant de miel. C'est vrai, j'ai pris ces vidéos. Et le régime occidental standard aujourd'hui est riche en calories et des aliments au-delà des rêves de chasseurs-cueilleurs. La définition de ce régime est la consommation excessive de calories provenant de glucides raffinés, de viandes grasses et de graisses ajoutées, et manque de céréales complètes, les fruits et les légumes. Oui, ça, c'est la définition médicale. Mais l'explication doit être plus complexe. D'une part, la plupart des autres animaux ont aussi évolué dans des environnements pauvres en énergie. Alors pourquoi ne désirent-ils pas aussi des aliments riches de sucre et en graisse? Et ça ne répond pas à la question que dois-je manger? Pour une meilleure explication, considérons quatre grands principes de la médecine évolutionniste dont nous avons discuté la semaine dernière. 1. Nous n'avons pas évolué pour être en bonne santé. 2. L'évolution ajoute un mélange d'adaptations avec des coûts et des avantages, ce qui nous a fait les omnivores par excellence. 3. L'évolution culturelle est la cause dominante de la discordance, ou comme on dit en anglais, mismatch. Et 4. À cause des points 1 à 3, il n'existe pas de régime alimentaire optimal. Commençons avec le principe que nous n'avons pas évolué, donc évolué à manger, pour être en bonne santé. C'est bien sûr l'idée derrière le régime paléolithique ou le paleo diet. Selon son fondateur, Laurent Cordain, c'est le seul et unique régime alimentaire qui correspond idéalement à notre constitution génétique. C'est pas mal, hein? Ce régime affirme que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs mangent beaucoup de protéines, mais il propose beaucoup des interdictions. Selon le paleo diet, nos ancêtres n'ont jamais mangé les céréales, les légumineuses, ni comme adultes les produits laitiers. Et par conséquent, nous ne sommes pas adaptés à ces aliments. Les glucides font grossir, et les céréales, et les légumineuses, et les produits laitiers sont pleins d'intrinutriments. À mon avis, les hypothèses du régime paléo posent de nombreux problèmes qui nous aident à penser à la manière d'appliquer la théorie et les données de l'évolution au problème de ce qu'il faut manger. Alors, discutons 4. Le premier problème est qu'il est faux de dire que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ne consommaient pas des céréales et des légumineuses sauvages. Nous avons de nombreuses preuves archéologiques et de paléontologiques du contraire. Les traces sont dans les os, les dents.
Par exemple, oui.
Les dépôts archéologiques, des outils comme des fossiles et des meules. De plus, il existe beaucoup de preuves montrant que les chasseurs-cueilleurs actuels recherchent des légumineuses et des céréales. C'est pas vrai, il faut dire. Le deuxième problème est ce que le régime paléo ignore la variation majeure entre les régimes de chasseurs-cueilleurs. Ce que mangent les chasseurs-cueilleurs de l'Arctique est totalement différent de ce que mangent ceux qui vivent dans les forêts tropicales, dans les habitats secs et chauds, et encore dans les milieux marins. En réalité, il n'y avait pas un régime paléo, il y avait plusieurs régimes paléo. Voici une étude que j'ai publiée il y a 2 ans avec des collègues et qui analyse des données de grande qualité sur 12 populations tropicales de chasseurs-cueilleurs. Comme vous pouvez le voir, les régimes variant selon la proportion d'aliments animaux ou végétaux, ça c'est à gauche ici, les animaux en rouge, plantes en vert, et selon le pourcentage, ici à droite, de protéines, de graisses, de glucides et dans leur alimentation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variations. OK, un troisième problème vient de l'idée que les plantes sont pleines des nutriments qui réduisent l'absorption, l'absorption, c'est difficile, des vitamines, des minéraux et autres nutriments. Cette affirmation ignore les preuves montrant que la cuisson et d'autres formes de transformation comme la fermentation éliminent ou réduisent ces composés. Aussi, comme Paracelse, le célèbre chimiste, l'a dit célèbrement, c'est la dose qui fait la poisson. J'ai du mal à croire que les lentilles, les haricots et le muesli que j'ai mangé pour le petit déjeuner ce matin, même s'ils contiennent des antinutriments, puissent me rendre carencé. La malnutrition est très rare dans les pays comme la France ou les États-Unis. Les vrais problèmes sont les maladies cardiaques, les cancers, le diabète, la démence et d'autres maladies chroniques. Le dernier et le plus grave problème du régime paléo est de supposer de manger comme nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, garantirait une bonne santé. Cela ignore le fait que nos ancêtres ne mangent pas pour optimiser leur santé, ils mangent presque tout pour optimiser leur succès reproducteur. Ouf, ça c'est un mot difficile. C'est plus facile, je pense, à le faire que le prononcer. Pour les anglophones. Maintenant, je suis en trouble. OK. Ce qui nous amène à la question suivante, comment avons-nous évolué pour devenir les omnivores ultimes? Et cela nous amène à notre deuxième principe, évolutionniste. L'évolution ajoute un mélange d'adaptations, chacun avec des coûts et des avantages, qui nous a fait des omnivores par excellence. Je ne pense qu'aucune autre espèce mange des régimes aussi variables que les humains. Les gens peuvent prospérer avec des régimes 100% végétaliens, 100% carnivores, pauvres en glucides, en graisses, en calories. Ils peuvent même survivre sans cuisson. C'est un peu étrange, mais c'est vrai. Comment et pourquoi? Il y a deux explications. La première, c'est que l'évolution est un processus contingent d'accumulation des adaptations. Et la seconde, c'est que l'évolution de la nutrition humaine ou l'alimentation humaine est unique en raison de nos adaptations cognitives. Et tout cela est arrivé en 7 étapes. La première étape remonte à plus de 7 millions d'années avant la séparation des hominines de la lignée des chimpanzés. Nous savons que ce dernier ancêtre commun ressemblait à un chimpanzé et se nourrissait surtout des fruits avec quelques herbes et très peu de viande. Il aime la viande, mais il ne mange pas beaucoup. Puis, il y a environ 7 millions d'années, les premières hominines ont évolué. Nous savons, grâce aux fossiles, comme ça a l'air ici, oui, qui a été découvert par Michel Brunet, ici du Collège de France, que ces hominides étaient bipèdes, avec des dents jugales plus épaisses et plus grandes, probablement adaptés à manger moins de fruits et plus d'herbes coriaces. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Michel Brunet sur ce problème avec Sahelanthropus tumae. Avec ces premières hominines sont venus les australopithèques, comme Lucie. Ces hominines consommaient encore des fruits, mais avec des mâchoires et des dents beaucoup plus grandes et des mains plus modernes. Je pense qu'il était adapté à déterrer des organes de réserve souterrains, les racines, les bulbes, les tubercules, dans les habitats plus ouverts. Peut-être le changement le plus important et le plus significatif fut l'apparition du genre Homo entre 3 et 2 millions d'années. Homo erectus avait un corps presque moderne, des dents plus petites et un cerveau plus grand que celle des australopithèques. Et ce qui est vraiment crucial dans le genre Homo, c'est qu'il a inventé le système chasseur-cueilleur. Cette innovation très réussie repose sur 4 éléments. 1. Le charognage et la chasse pour obtenir la viande. 2, la cueillette extractive pour obtenir des plantes de haute qualité. 3, la fabrication et l'utilisation du til, puis la cuisson pour transformer les aliments. Et comment exactement la cuisson a commencé, c'est un débat, mais sûrement après 1 million d'années. Et quatrièmement, une forte coopération sociale. Le mode de vie chasseur-cueilleur fait une stratégie si réussie qu'elle a permis à Homo erectus de consommer une diversité des aliments impressionnante et de se disperser dans l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Homo erectus a évolué à un certain nombre de descendants que nous appelons les Homo archaïques. Et les plus célèbres sont les Néandertaliens, et nous savons que les espèces étaient des chasseurs sophistiqués, avec un cerveau presque de taille humaine, qui inventaient les armes de jet et cuisinaient souvent leur nourriture. Nous parlerons plus tard, le 31 octobre, pourquoi je pense que les Homo archaïques furent les premières espèces à consommer et utiliser beaucoup d'énergie et avoir des niveaux élevés de graisse corporelle. Mais enfin, bien sûr, nous arrivons à Homo sapiens, nous. Et grâce aux découvertes de professeur Hublin, nous savons que nous avons évolué autour de 300 000 ans en Afrique. En fait, le crâne à gauche, le plus ancien humain connu, a été découvert par professeur Hublin. Et éventuellement, progressivement, les humains ont fabriqué des outils encore plus sophistiqués, développé une culture plus dynamique et consommé une alimentation plus diversifiée que les Homo archaïques. Homo sapiens, plus que toutes les autres espèces du genre Homo, mange de tout. Cette flexibilité a permis aux humains modernes de se disperser dans tous les coins du globe et donc de consommer une diversité d'aliments impressionnante. En résumé, au fil de ces 6 étapes, les hominines ont ajouté de nouveaux aliments à leur régime. D'abord les fruits, puis les tubercules et les racines, ensuite beaucoup de viande, puis les aliments cuits, et puis les animaux et les poissons. Le plus important était le résultat. Nous avons évolué pour devenir des omnivores les plus exceptionnels du monde animal. Nous mangeons tout. Et puis, tout a changé. La 7e étape fut l'apparition de l'agriculture, qui a commencé il y a seulement 600 générations, au cours de 10 000 dernières années. C'est un clin d'œil à l'échelle du temps évolutif. Une stratégie fondamentale pour tous les agriculteurs est de cultiver des céréales de base, mais les fermiers ont également produit des légumineuses, des légumes, des produits laitiers et un peu de viande. D'un point de vue évolutif, le grand avantage de l'agriculture est qu'elle permet de produire plus de nourriture, donc d'avoir plus d'enfants. Oui, l'équation de la vie, c'est on mange les aliments et on a avoir des enfants. Oui. L'agriculture a permis à la population mondiale de passer d'environ 50 millions à près d'une milliard de personnes vers 1800. Quand commençons la dernière étape de notre histoire, la révolution industrielle. Et cette étape nous amène à aujourd'hui. Depuis le début de la révolution industrielle, nous avons appris à produire des quantités massives de nourriture, à raffiner les céréales et à fabriquer en abondance du sucre et des produits animaux. Les gens ordinaires ont désormais accès à une diversité d'aliments étonnante et à bon marché. Et en conséquence, la population mondiale a été multipliée par 8 depuis 1800, maintenant près de 8 milliards. Mais les nombreux avantages de l'agriculture et de l'industrie sont aussi accompagnés des coûts. L'agriculture a accru le risque de famine, de maladies infectieuses et de malnutrition. L'ère d'industrie a non seulement causé des dommages environnementaux, mais elle a aussi rendu possible des régimes alimentaires auxquels nous sommes mal adaptés. Pour employer le terme exact, ces aliments sont des discordances. Rappelez-vous de la semaine dernière que les discordances sont définies comme des conditions qui sont plus fréquentes ou plus graves parce que le corps humain est insuffisamment adapté aux nouvelles conditions environnementales. Oui. Un des premiers exemples des discordances produites par la révolution industrielle vient d'ici, la margarine, inventée en France par Hippolyte Meige-Mourier pour fournir à l'armée française un beurre qui ne rancirait pas. Il trouva le moyen de transformer les huiles végétales liquides en graisse solide. Malheureusement, maintenant, nous savons que les acides gras trans-hydrogénés provoquent des maladies cardiaques. Peut-être une discordance plus problématique du point de vue de population est le raffinage de céréales. Au début des années 1800, des ingénieurs hongrois ont inventé le moulin à cylindre qui permit aux meuniers de produire de la farine blanche à moindre coût et en grande quantité. En France, on appelait d'ailleurs cette farine « farine hongroise de haute qualité ». Elle était populaire parce qu'elle avait de bon goût et se conservait plus longtemps. Mais le raffinage enlève aussi aux céréales leurs nutriments et leurs fibres. Malgré ces carences, la farine blanche est devenue populaire partout, y compris en France. Un personne influent à Paris fut le boulanger autrichien Auguste Zang, dont la boulangerie viennoise a été la première à populariser le croissant. Plus tard, le four à vapeur viennois rendit possible la baguette classique qui devint populaire à Paris dans les années 1920. Moi, j'adore les croissants et les baguettes, mais parce qu'ils manquent de fibres, ils font grimper rapidement la glycémie. On mesure comment est l'indice glycémique, combien de la glycémie augmente pendant 2 heures après qu'on mange une quantité d'aliments contenant 50 grammes de glucides. Mais la meilleure mesure, c'est la charge glycémique, oui, ici, ce qui correspond à l'indice glycémique multiplié par la quantité de glucides qu'on mange. Oui, obviously, c'est plus important. Et les aliments à forte charge glycémique posent des problèmes car elles font monter rapidement et fortement l'hormone insuline. Ensuite, l'insuline favorise le stockage de graisse, c'est ce qu'elle fait. Et avoir plus de graisse corporelle accroît la faim. Beaucoup de gens pensent que manger trop fait grossir, mais en réalité, avoir plus de graisse fait manger trop. C'est un cercle vicieux, et nous parlerons de ça le 31 octobre. Un aliment à forte charge glycémique encore plus puissant est le sucre, qui était autrefois rare. En 1850, le Français moyen consommait 4 kg de sucre par an. Aujourd'hui, le moyen, c'est 37 kg par an. Et ça, c'est le moyen. Alors, il y a des gens qui ne mangent plus, oui. Aux États-Unis, c'est encore pire. L'Américain moyen consomme 45 kg par an. C'est beaucoup. Une autre discordance est trop de viande rouge. Oui, c'est absolument sûr. Nous avons évolué pour manger de la viande, mais pas pour la santé, comme nous avons discuté. De plus, la viande que nous consommions et en évoluant n'était ni nourrie aux céréales, ni transformée comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études, il faut dire, y compris cette grande étude publiée par mon collègue à Harvard, qui a suivi plus de 120 000 personnes pendant 22 ans. C'est beaucoup, oui. Cette étude montre que les personnes qui consomment 85 grammes de viande par jour ont en moyenne un taux de mortalité supérieur de 12%. Double cette quantité à 70 grammes par jour et le taux de mortalité augmente de 35 à 50%. Et les viandes transformées, comme le bacon et le jambon, accroissent également la mortalité. Cependant, autrefois, la viande était rare. En 1850, le Français moyen consommait un peu plus de 20 kg par an. Aujourd'hui, le moyen est 90 kg par an. Ça, c'est le moyen. Et comme souvent, les États-Unis font pire. L'Américain moyen... Il n'est pas un Américain moyen, il faut dire. 114... Oh, et ça n'a rien à dire avec le prix Nobel du pays aussi. Mais, et il faut dire que 114 kg est le moyen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment de plus. Plus récemment, des aliments ultra-transformés, les aliments AUT, ont reçu beaucoup d'attention. De nombreuses études montrent que le plus on consomme des AUT, le plus on accroît son risque d'obésité, des maladies cardiovasculaires et de mortalité de toutes causes. La raison n'est pas encore claire, il faut dire. Est-ce qu'à cause des additifs chimiques, de tout le sucre, le sel et la graisse ajoutée, du manque de fibres, une combination de toutes ces caractéristiques? Nous ne savons pas encore, mais une chose est certaine, les AUT sont les discordances. Enfin, deux autres aliments controversés en termes de discordance sont les graisses saturées et le sel. La graisse saturée est délicieuse et riche en calories, mais elle élève le taux de cholestérol chez certaines personnes, pas tout le monde, et augmente l'inflammation. Donc, beaucoup de médecins disent qu'il faut réduire sa consommation, mais certaines preuves indiquent que des quantités modérées sont plus saines que trop ou pas assez. C'est la même chose avec le sel, on peut dire ici. Selon l'étude Drug, par exemple, il y a une dose optimale. Pour mieux comprendre les controversées, nous avons besoin de plus d'études, mais pas aujourd'hui. OK, assez de ces discordances. La question suivante est quel type de régime évite toutes ces caractéristiques mais est riche en aliments que nous savons être sains et délicieux? La réponse, les régimes alimentaires traditionnels. Le plus connu et le plus étudié est le régime méditerranéen, mais on pourrait dire la même chose que des régimes traditionnels d'Asie, des Amériques et d'Afrique. Et cela a du sens. Avant l'ère industrielle, l'obésité et les discordances associées avec l'alimentation occidentale moderne, comme le diabète, étaient très très rares dans toutes ces régions. Cela vaut donc la peine d'étudier les caractéristiques de tous ces régimes partageants. D'après mes études, je pense qu'ils sont principalement composés des céréales non raffinées, riche en fruits, légumes non transformés, incluant des légumineuses et des noix, peu de sucre et de sel ajouté, des quantités modestes de produits laitiers, l'accent sur les graisses insaturées, pas trop de viande, et comprenant certains aliments fermentés. Je suis sûr que vous avez lu que le meilleur étudié de ces régimes est le régime méditerranéen, et il existe tellement d'études qu'on peut maintenant les combiner dans des méta-analyses, lesquelles montrent que suivre un régime méditerranéen réduit le risque de mortalité annuelle à peu près de 23% et le risque d'événement cardiaque de 24%. Et ça c'est bien connu. OK. Avant de conclure, j'aimerais faire quelques remarques supplémentaires sur des questions qu'on me pose souvent. Premièrement, bien que certains régimes soient mieux que d'autres, existe-t-il un régime optimal? À mon avis, la réponse est certainement non. Et cela a du sens du point de vue évolutif. D'une part, nous avons surtout évolué pour avoir autant d'enfants que possible, mais pas pour être en bonne santé. En outre, tous les aliments présentent des compromis en termes de santé. Et puis, qu'essayez-vous d'optimiser ? Le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de démence, le plaisir, les dépenses, ou êtes-vous jeune, vieux, homme, femme, etc. Quand j'entends quelqu'un prétendre que son régime alimentaire est optimal, je suis méfiant. L'autre question qu'on me pose est quoi dois-je manger ? Que dois-je manger ? Et nous allons tout y répondre, et pour cela, rappelons le vieux proverbe. Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson ne sait qu'une chose importante. C'est parce que lorsqu'on chasse un renard, il fera tout pour échapper, tandis qu'un hérisson se mettra toujours en boule. Même si nous aimons la solution simple et unique, l'alimentation est trop complexe pour être résolue d'une façon d'hérisson qui est basée sur une grande idée. Je pense qu'il faut mieux de penser et manger comme un renard. Et il n'y a pas de solution miracle de l'alimentation. Et cela signifie reconnaître que nous avons évolué pour manger presque tout, mais certains régimes sont mieux que d'autres. Et leurs caractéristiques sont bien étudiées. Manger principalement des plantes, y compris des légumineuses et des noix. Éviter trop de sucre ajouté. Consommer des céréales non raffinées. Manger beaucoup de fibres. Privilégier les graisses insaturées plutôt que les graisses saturées. Et ne pas manger trop de viande. Mais savourer la bonne cuisine. Et soyez modérés avec modération. Pour info, ma femme et moi ont des réservations à un restaurant étoilé ce soir et j'ai l'intention d'oublier tout de mes propres conseils. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai un nouveau livre qui apparaîtra l'an prochain sur ce sujet. Le titre anglais est Fed Up, The Story and Science of Food and Diet. Je pense que la traduction française pourrait être Gavé, l'histoire de la science de l'alimentation et du régime alimentaire. Et je reviendrai sur le thème d'alimentation le 31 octobre pour discuter l'obésité, mais je voudrais d'abord considérer la question de savoir comment nous avons évolué pour être physiquement actifs et pourquoi si nous évitons si souvent l'exercice. Et notez que la conférence n'est pas le vendredi prochain, c'est le 24 octobre. OK, merci pour votre attention. Je reprendrai volontiers à vos questions, mais veuillez les poser lentement, car mon français n'est pas très bon. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.